Ce podcast du OFF 2018 vous est offert par la Maïf, assureur du Festival d'Avignon.
Osmose. Osmose Radio.
La web radio du OFF.
Vous apprendrez bien vite qu'au théâtre, le meilleur se passe souvent en coulisses.
Être ou ne pas être au Festival d'Avignon, c'est la question qu'on peut se poser encore une fois.
Un œil en coulisses, l'émission qui débauche les artistes et les déloge le temps d'une heure.
Mais vous avez cédé à l'appel de la radio, chers amis. C'est une excellente idée de nous retrouver dans Un œil en coulisses avec moi, Stéphane. Je suis heureux de vous accueillir sur Osmose Radio pour parler une fois de plus de la programmation du Festival OFF 2018 qui se situe dans plein d'endroits différents, notamment un collège, le Collège Pasteur, près de la Rutière, qui se reconvertit en théâtre au moment du mois de juillet. Et c'est donc l'endroit s'appelle Présence Pasteur et à midi 20 notamment, on peut retrouver un spectacle qui s'appelle L'appel de la forêt, oui oui, comme le roman de Jack London. On va en parler un petit peu avec Romuald Boris, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes metteur en scène de l'adaptation théâtrale de ce roman de Jack London qui a fasciné sans doute beaucoup d'anciens gamins, dont je suis, hein, je le reconnais, ouais. Vous aussi sans doute.
Oui.
Et alors tout à l'heure je vous ai croisé en allant voir le spectacle, je vous ai croisé vous et l'acteur qui incarne à lui tout seul une ribambelle d'humains et de chiens loups, justement. Alors tous les acteurs sont un peu schizophrènes, mais alors lui c'est quelque chose, il serait peut-être même limite lycanthrope, allez donc savoir. Et toujours est-il que Jimmy Domas interprète seul en scène ce spectacle, dont vous êtes vous-même le metteur en scène, Romuald. Alors, ce n'est pas votre premier passage au Festival d'Avignon. Vous avez notamment produit pendant quelques années avec cette compagnie, la compagnie La Marguerite aux Quatre Vents, qui nous vient du Sud-Ouest. Vous êtes déjà venu au Festival d'Avignon il y a quelques années pour un autre voyage que vous nous proposiez plutôt que celui que vous présentez aujourd'hui dans les contrées septentrionales d'Amérique du Nord. Là, c'était le Road Movie Cabaret en 2015-2016. Oui. Comment ça s'était placé?
Alors, c'est de 2010 à 2016, en fait.
Ah, d'accord.
Oui, oui, voilà.
Ah, c'est un road movie qui a duré plusieurs années, en fait.
C'était un voyage qui ne se terminait jamais, mais par bonheur. Ça a été une épopée formidable en Avignon, à Paris, en tournée dans toute la France. Et ça a été un plaisir absolu de faire ce spectacle, voilà.
Très bien. Et là, vous nous proposez un autre voyage avec cette adaptation théâtrale d'un roman extrêmement connu de Jack London qui a été traduit en français « L'appel de la forêt ». Mais en fait, il y a une controverse parmi les traducteurs. Oui. Et vous-même, vous prenez bien soin de préciser sur votre affiche « The Call of the Wild ». Parce que, oui, en fait, la traduction française littérale, l'adaptation n'est pas terrible. Elle ne reflète pas vraiment le sens de ce que voulait signifier Jack London.
Bah, pas du tout. The Call of the Wild, ça veut dire l'appel sauvage ou l'appel du sauvage. Et on est quand même très éloigné du titre bucolique de l'appel de la forêt. Alors nous, on a gardé ce titre parce que les gens le connaissent dans la mémoire collective sous le nom de l'appel de la forêt. Mais c'est vrai que Jack London, lui, c'était The Call of the Wild. Et malheureusement, je dirais, lorsque ce roman a été adapté, traduit en France en 1900, il a été adapté d'une manière un petit peu édulcorée, enjolivée. Et ce qui fait que ce roman a basculé doucement, et c'est pas du tout un problème, dans la littérature jeunesse. Alors qu'aux États-Unis, c'est pas du tout ça, quoi. C'est vraiment un roman majeur, c'est aussi littérature jeunesse, mais c'est un rapport. L'écriture est beaucoup plus forte, beaucoup plus violente dans le roman original. Et en plus, il fait partie de ces bouquins qui sont les pionniers du nouveau roman américain. Donc c'est vraiment, ça a une autre force que ce qu'on lui permet d'avoir ici en France.
D'accord. Donc l'appel de la forêt et avec en exergue marqué aussi The Call of the Wild sur le visuel, sur l'affiche que l'on peut voir dans les rues d'Avignon. Pour ceux qui nous regardent en direct sur Facebook, je montre un petit peu le visuel. C'est sur un fond pourpre et carmin. Carmin comme le rouge, hein, ouais, du sang dont on aura l'occasion de reparler. Une tête de loup stylisée qui correspond un petit peu à l'idée générale. Et vous disiez qu'aux États-Unis, ce n'est pas forcément considéré comme un roman jeunesse, les œuvres de Jack London en général. Pourtant, moi, comme tous les vieux gamins, j'ai vraiment été impressionné par le roman Cro-Blanc quand j'étais petit, comme vous sans doute, comme plein de jeunes gens notamment. Vous me demandez de raconter l'histoire, j'en serais incapable aujourd'hui. Par contre, je me souviens, mais je ressens encore même parfois le froid, le vent glacial, et je dis pas seulement ça par rapport au Mistral d'ici, dans le Vaucluse, je vois encore le sang pourpre sur la neige immaculée, la peur, la solitude, tout ça, c'est des impressions sensibles, alors que finalement l'histoire, je m'en souviens pas si bien que ça. Ouais. Et L'appel de la forêt, c'est peu ou prou la même chose. Et du coup, c'est vrai que vous disiez tout à l'heure que ce n'est pas considéré comme un roman jeunesse aux États-Unis. Et je dois vous avouer, c'est pas forcément une critique de votre spectacle, mais il faut bien que reconnaître que certaines jeunes filles, notamment lors du spectacle que j'ai vu tout à l'heure, ont un petit peu décroché à certains moments. Et je pense que elle ne s'attendait pas à la violence de ses propos.
Oui, c'est pas qu'elle s'attendait pas. Oui, je pense, parce que encore une fois, le roman qu'elles ont lu est une forme édulcorée de l'œuvre originale. Nous, on a fait juste que réadapter, et ce sont exactement les mots de Jack London qui sont dans le spectacle. Et je peux vous assurer que, en plus, nous aussi, on s'est un peu ligaturé là-dessus, parce que les premières versions étaient, mais alors, beaucoup plus gore, vraiment beaucoup plus gore que ce qu'il y a dans le spectacle. Et parfois même, on s'est dit, mince, on trahit un peu l'œuvre aussi d'une certaine manière, mais j'ai dit, mais ça va être compliqué, sinon, d'aller réellement au bout de ce que fait London, les gens vont reculer, quoi. Alors, des fois, oui, il y a des, c'est pas des décrochés, c'est juste qu'ils reculent un peu, en fait. Ils s'attendaient pas à ça réellement, sauf que c'est pas, on n'a pas rajouté du gore pour du gore, on a même allégé le gore originel de Jack London. Et encore, quand je dis gore, c'est juste de l'action, en fait. C'est juste des combats de chiens, des combats de loups, Donc forcément, c'est y a de la violence.
C'est la violence de la nature sauvage, on rejoint l'idée tout à l'heure. Voilà.
The Wild.
Et c'est pas le gore recherché du cinéma d'action fantastique.
Ah non,
il s'agit
tout,
pas de ça, attention, parce que les gens, les auditeurs n'aillent pas faire une confusion. Il s'agit simplement de l'horreur qui est propre à la nature et le sang gicle, pas sur le plateau,
mais on
peut quasiment l'imaginer par rapport aux propos du comédien, justement.
C'est ça. Mais c'est de l'horreur dans une histoire sublime, merveilleuse, magnifique. C'est ça, en fait, qui se confronte dans cette œuvre-là, c'est-à-dire une poésie de la nature absolument merveilleuse et en même temps quelque chose qui peut parfois faire reculer de, oui, peut-être d'horreur, mais en tout cas le sauvage, la nature première, l'instinct premier, la loi du plus fort, quoi. Chose qui a parfois été décriée sur l'œuvre de Jack London, c'était la loi du plus fort, justement, mais qui est la loi de la nature.
Mais en ce sens, c'est un auteur très américain et qui est primordial dans la littérature américaine, avec quelques controverses, mais on aura l'occasion d'y revenir.
Bien sûr.
Alors, quelque chose qui m'intrigue dans l'adaptation que vous en avez faite, c'est que c'est un roman et l'adaptation théâtrale n'est pas forcément facile. Déjà, moi le premier, j'ai été très surpris de ne voir qu'un acteur sur scène. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il y aurait peut-être deux acteurs, un qui fait le chien, un qui fait les humains, par exemple.
Ouais.
Parce que finalement, l'histoire, c'est Buck, c'est ce personnage central, ce chien-loup qui a toujours été domestiqué, a toujours côtoyé les humains, mais il a cette vieille tendance primitive originelle du loup sauvage et qui le travaille au corps, en quelque sorte, tout au long de l'œuvre et à laquelle il finit par céder. Je ne vais pas raconter la fin, bien entendu.
Non.
Chers amis, mes petits loups, puisque je vous appelle comme ça à longueur d'année dans mon émission L'Heure du Loup sur Osmose Radio, et là, il y a une pause pendant le mois de juillet, bien entendu, puisqu'on parle de théâtre, mais mes petits loups, vous irez voir le spectacle et vous ferez une idée vous-même. Mais vous-même, vos partis pris de mise en scène pour suggérer le sang, pour suggérer la neige, le froid, le vent, comment vous y êtes pris, finalement?
Il y avait deux solutions. Ou une solution où on déployait des moyens énormes de décor et on figurait tout. C'est-à-dire tout était vraiment très figuratif avec une énorme distribution, beaucoup de moyens au plateau. Pourquoi pas ? Mais je trouvais qu'on diluait, il y a des films qui ont été faits dans ce sens-là et c'est déjà très bien, ça existe au cinéma. Soit on se recentrait sur l'essence même de l'œuvre, ce qu'on a fait nous en adaptant l'œuvre originale en anglais, c'est-à-dire on se focalisait sur la vision du chien et son regard porté sur l'humanité et sur l'homme en général et sur la vie en particulier. Et c'est ça qui m'intéressait. Du coup, que ce soit un seul comédien qui interprète le rôle de Buck, qui est le chien, qui est un chien coupé de Terre-Neuve et de berger, ça m'intéressait qu'il ait le regard porté, que ce regard porté de ses souvenirs sur les hommes qu'il a croisés tout le long de sa vie de chien domestique avant de devenir lui-même un chien sauvage à la tête des meutes de loups. Voilà.
dont il prend effectivement le leadership au fur et à mesure. C'est un peu une révélation à soi-même. Et votre acteur, Jimmy Domas, alors rien à voir avec notre Emma Domas avignonaise, hein, je tiens à le préciser.
Okay.
Et donc lui-même, bien qu'il se soit laissé pousser la barbe, une barbe de trappeur pour faire un petit peu illusion, il n'est pas encore aussi poilu que les Huskies, mais comme tout bon acteur, j'aurais tendance à dire qu'il est un tantinet schizophrène. Mais là, il est même parfois un petit peu lycanthrope, puisqu'il joue à la fois les loups, à la fois les chiens. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est le volume sonore auquel il déclame. Ça se justifie, bien entendu, mais on se dit, il va se casser la voix. Déjà, il va jamais tenir tout le Festival d'Avignon, il va jamais tenir jusqu'au 29 juillet.
Si.
Et en plus, il chante, donc il faut vraiment qu'il la soigne.
Mais il a aucun problème de voix à l'heure actuelle. Hein.
D'accord. Ah non, mais il m'impressionne. C'est vraiment bien.
Après, encore une fois, cette voix-là que vous entendez, c'est pas une voix criée pour être criée. C'est il y a une viscéralité dans le roman de Jack London que moi je voulais transmettre. Et donc l'acteur, il se doit d'être viscéral. Et ce que vous appelez du volume sonore, en fait, c'est la viscéralité. C'est compliqué de jouer quelque chose de viscéral en chuchotant. Donc forcément, c'est très guttural par moment, mais ça parle aussi. Je veux dire, il y a des moments qui sont juste posés, parler, des échanges. Il y a un peu tout qui se mélange et se confond comme la vie au final, quoi. Et quand il y a des moments d'action, parce qu'il y a des purs moments d'action dans le roman et donc aussi dans notre spectacle, bah, il faut y aller. L'action, ça se fait rarement allongé sur un fauteuil et en discutant calmement. Donc il faut se plonger aussi dans l'action et par la même occasion immerger le spectateur dans l'action. C'est aussi ça qui était intéressant sur la scénographie, c'était d'avoir une petite zone de jeu, d'avoir une toile blanche, un sol blanc, comme une page blanche vierge sur laquelle le spectateur peut lui projeter son imaginaire. C'était ça aussi, la manière de concentrer l'imaginaire des spectateurs. Et la petite chose en plus, justement, parce que quel intérêt de monter un roman aussi fort que celui-là si ce n'est pas d'y rajouter cette petite chose en plus, eh bien c'est l'acteur. Et c'est l'acteur qui va le porter par ses émotions, par ce qu'il transmet de viscéral et à la fois de poétique. Et c'est ça qui est intéressant.
Très bien. Effectivement, c'est ce volume sonore que je disais à l'instant. Renoue un petit peu avec ce côté primitif des personnages. Bah, déjà des humains qui perdent une part de leur humanité, tout simplement. Et aussi des chiens qui se rapprochent de leur racine primitive de loup. Et le personnage incarne les deux, pour le coup. Alors, moi, à l'aune de mon point de vue d'adulte, j'ai vu aussi une dimension à laquelle, je ne sais pas, vous me direz que je vais peut-être trop loin, mais une dimension supplémentaire à celle qui est simplement l'histoire de ce chien qui se rapproche de ses racines primitives. Dans la mesure où on sait que Jack London était un militant socialiste, c'est aussi pour ça qu'il est parfois mal vu dans la société américaine, on considérait que c'était un sale rouge. Il faut savoir que les émeutes ouvrières de Chicago ont été réprimées une dizaine d'années avant que Jack London vive cette aventure qui l'a amené à publier ce roman, et lui-même était sympathique à ces causes-là. Et du coup, quand je lis l'histoire de Buck qui doit se défendre contre l'injustice et la violence des humains et celle des loups entre eux, cette vie de chien que vous citiez à l'instant, eh bien moi j'y vois un peu une métaphore, à tort ou à raison, du prolétaire qui doit de se faire respecter au sein des organisations syndicales contre les briseurs de grève, les jaunes, et contre la bourgeoisie impitoyable.
Il y a aussi un peu de ça. Alors évidemment, nous, on l'appuie pas parce que c'est déjà...
C'est pas votre propos, soit.
Non, c'est pas notre propos, mais il y est effectivement dans le roman. C'est un des romans les plus proches de Jack London, au final. C'est un des premiers, mais il a écrit, lui, d'ailleurs, en revenant d'Alaska, après avoir cherché de l'or... où il est revenu avec 3 dollars en poche et le scorbut. Donc on peut pas dire que
c'était... ça, c'est pas l'enrichissement qu'il laisse compter.
Sauf qu'il est revenu avec ce roman merveilleux dans les poches, quoi. Et ça, c'était... Par contre, ça, c'était inespéré. Donc oui, il y a aussi une dimension sociale à cette œuvre. Et comme dans toutes les dimensions... comme dans toute l'œuvre de Jack London, si on prend Martin Eden, par exemple, c'est essentiellement ça. Donc on peut déjà, là, y voir une forme de dimension sociale. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu aussi. Après, l'idée, c'était pas d'appuyer. Lui ne l'a pas fait non plus dans son roman, donc je voulais pas, moi, aller développer ce côté-là un peu plus qu'un autre. Vraiment, l'idée, c'était d'être le revenir à l'essence même de l'œuvre, ce qu'il avait créé, lui, à l'époque, et pas extrapoler plein de points qui auraient pu l'être, hein, dans une autre vision artistique de l'œuvre, c'est permis.
Ça le sera peut-être un jour, c'est vrai.
Bien
mais
sûr.
Là...
Il n'existe pas d'adaptation théâtrale de l'œuvre, hein. C'est la première.
C'est la première, d'accord.
Ouais, je n'en connais pas.
Enfin, vous parlez pour la version francophone.
Ouais, voilà. En France, je n'en connais pas.
Très bien. Et de toute manière, on sait aussi hein, que les loups ont une organisation sociale. Il y a des bestioles oui. comme ça, les rats et les loups, qui ont des organisations sociales tout à fait impressionnantes et qui oui. se rapprochent parfois des nôtres.
Exact.
Donc voilà, vous avez fait double coup. On revient au thème du votre prochain thème, ce sera sans doute le lycanthrope, tout simplement. Non
oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
Mais ça, vous nous en parlerez à une prochaine occasion. Alors, je voulais aussi insister sur la musique, qui, parce que je disais que votre comédien Jimmy Domas interprète de nombreux personnages, notamment Buck, ce personnage principal de Chien-Loup, mais aussi de temps en temps, il chante et la musique est à l'avenant du cadre dans lequel se situe l'histoire, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, ouais. les contrées septentrionales, et la musique, c'est du country, blues,
folk.
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 Ah, ah avec folk. Une grosse. Il y a quand même un côté chanson.
Mais folk, folk de l'époque.
Bah, ça, moi, c'est
celle qui racontait la vie des hommes.
Bah, voilà, et en ce sens, ça
et
me rappelle.
C'est de la folk, hein, vraiment.
Ah mais ouais bon soit allez la country c'est aussi parler de la vie des gens mais c'est vrai qu'en France le terme country music a un côté péjoratif sans doute c'est peut-être pour ça que vous tiquez sur
non j'aime bien en plus j'ai rien contre il y a pas de côté péjoratif pour moi non mais parce que c'est vraiment de la folk pour le coup vraiment
enfin, moi j'ai ressenti alors je sais pas ce qu'a pensé votre le compositeur Cédric Moulier avec lequel vous avez travaillé pour la musique sur ce spectacle
ouais,
mais moi j'ai ressenti l'influence de Springsteen notamment pour aller dans votre sens de musique folk
ah peut-être en effet. Alors oui, je n'étais pas
c'est personnel.
Mais c'est non, mais oui, bien sûr. Bah, alors, de toute façon, dans les spectacles, il y a plein de choses qui nous échappent. Hein. On nous signifie souvent des choses. Enfin, oui, c'est vrai. Mais au départ, il y a une forme d'inconscience sur ce qu'on transmet. On a un objectif premier et forcément, on déborde toujours du cadre, mais sans le faire consciemment. Donc c'est bien, parfois, peut-être. En effet, il y a un peu du Springsteen maintenant que vous me dites, effectivement. Il y a un peu ça. Mais en tout cas, Cédric. Alors, il faut dire que Jimmy, effectivement, est comédien. Il est aussi musicien et chanteur. Il faisait partie justement de l'aventure du road movie cabaret.
D'accord.
Donc c'est quelqu'un qui est absolument complet, comme l'est Cédric, qui était aussi dans le road movie cabaret, qui était, pour ceux qui avaient vu, qui jouait de l'alto, mais qui est un multi-instrumentiste de génie, mais qui est vraiment un compositeur, un musicien merveilleux. Et en effet, il a composé la musique sur le spectacle. Et ça, c'est un vrai luxe qu'on n'a pas tout le temps. Là, c'est-à-dire qu'il est venu en répétition, il a assisté aux répétitions, il a tenté des choses pendant qu'on jouait, puis il a filmé. Il est rentré chez lui, il a refait des musiques, puis il est venu les jouer, puis il les a remodifiées. Et on a l'impression que c'est rien, et tant mieux, parce que justement, elles se confondent absolument, totalement dans l'histoire, et on n'a pas l'impression d'avoir justement des pièces rapportées, et elles font complètement unité et masse avec le reste de l'histoire, hein, sans être en disant « Ah tiens, là, il y a de la musique, tiens, là, alors qu'il y a de la musique, enfin, il y a de la musique en permanence, hein, je ne sais pas si vous avez entendu, mais... Mmh. » Du début jusqu'à la fin, il y a de la musique.
En plus des morceaux chantés par Jimmy, notamment.
Ouais, mais il y a de la musique tout le temps. Ouais. Il parle tout le temps sans de la musique. Même si elle est très peu sonore, elle est là.
Il y a un fond sonore, de toute façon, qui accompagne le jeu de l'acteur et l'histoire de fait. Alors, écoutez, on vous souhaite un beau succès pour cette édition
Merci
2018 avec ce spectacle. Donc, vous aviez fait dont vous étiez venu l'an dernier pour faire quelques représentations,
oui.
mais finalement, ça ne s'est pas fait. Mais en tout cas, c'était reculé pour me souhaiter, puisque vous êtes bel et bien présent en ce
tout
Festival Off 2018. On vous souhaite que ça marche aussi bien, voire mieux, que le Road Movie Cabaret. Et alors, on parlait de musique à l'instant, on évoquait un petit peu le travail de Neil Young avec Jim Jarmusch sur le film Dead Man qui lui aussi
ouais.
cadre beaucoup avec l'Amérique du Nord mystérieuse
ouais,
et la musique folk.
C'est vrai.
Et justement, vous avez un projet pour les prochaines années qui tournera autour du rock et du théâtre.
Exact. Alors au départ, c'est un opéra même. C'est la bohème de Puccini.
Mm-hmm.
Et donc nous, on va faire notre bohème de Puccini. Alors on garde le livret en fait. Hein. On s'inspire du livret de Puccini, de la bohème, et on le projette à notre époque. À Paris, toujours, avec des jeunes gens de notre époque et avec des chansons en rock. Voilà.
Très bien. Donc,
je
ne
peux pas
venir.
En dire plus pour l'instant. Il existe déjà. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il sera présent à Avignon l'année prochaine dans un des très, très beaux lieux du festival.
Donc 2019, tenez-vous à l'écoute. Et de toute façon, Osmose Radio sera une fois de plus sur le coup. Allez, merci en tout cas, Romuald, d'être venu nous parler de ce spectacle.
Gentil.
Je rappelle, l'appel de la forêt à Présence Pasteur à 12h20 tous les jours, à part quelques jours d'horloge que j'ai oublié de noter, mais peu importe, The Call of the Wild que vous pouvez retrouver dans cette adaptation au théâtre du fameux roman de Jack London. Pour nous quitter, on va écouter une des musiques qu'on peut entendre lors de ce spectacle, Matthew and the Artist, avec le titre Glacier.
Glacier, we're just shapes that spring.